Bienvenue à la table ronde numéro 3 du congrès du SNAP-CGT. Identifier et combattre les discriminations dans le monde de l'art. Avec Sophie Vella, étudiante pour l'asso Les Mots de Trop, Marie Daucher, photographe, et Pascale Obolo, cinéaste, chercheuse et plasticienne. La table ronde débutera par une présentation de l'Observatoire de la Liberté de Création.
Le week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste-auteur, l'artiste-autrice au travail compose et se confronte au quotidien, notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le syndicat et faire reconnaître notre travail.
Épisode 9, Censure et discrimination par l'Observatoire de la Liberté de Création.
Donc on va commencer avec une présentation d'à peu près une demi-heure de l'Observatoire de la Liberté de Création par Daniel Véron, qui va être introduit par Guillaume. Donc il va présenter pendant 5-10 minutes, et si vous souhaitez intervenir après, vous pourrez. Et ensuite on passera à la table ronde avec les trois intervenantes qui sont là, donc d'ici 20-30 minutes. Voilà. Vas-y, Guillaume.
Allez, pour le SNAP, il y a aussi des bulletins d'adhésion sur la table à l'entrée. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, il nous a semblé important de permettre cette intervention de l'Observatoire. D'abord parce que le SNAP en est membre, je pense, à peu près depuis sa création. C'était il y a longtemps, je sais plus combien de temps, mais voilà, Daniel nous le dira. Et que le secteur des arts visuels est parmi les principales victimes de la censure. Alors c'est toujours des situations extrêmement complexes et assez pernicieuses. Et c'est vrai que la création de l'Observatoire a permis et permet d'analyser les processus, etc. Et que en plus dans notre secteur qui est souvent, qui se caractérise par son manque de structuration, parce que éclatement des auteurs, etc. On a parfois du mal à identifier ce qui est de la censure pure et dure, avec aussi parfois des actes d'autocensure de la part des auteurs eux-mêmes qui prennent les devants. Enfin, c'est des choses très compliquées. Et la capacité d'analyse de l'Observatoire, qui a un certain nombre de professionnels, tout secteur. Il y a trois organisations liées à la CGT Spectacle. Il y a la fédération en elle-même, le SAMTAC et le syndicat français des artistes interprètes et le SNAP CGT. Donc on est tous assez actifs au sein de l'Observatoire, et donc je passe la parole à Daniel pour qu'il vous fasse la présentation, et donc si vous avez des questions ensuite, elles seront les bienvenues. On se donne une demi-heure grosso modo. Voilà, merci.
Oui, bonjour, et merci de l'invitation. Guillaume vient de dire un tout petit peu la place que prenait la CGT dans l'Observatoire. Alors, de façon plus précise, l'Observatoire, il fête ses 20 ans. On ne sait pas très bien s'il a été fondé en 2002 ou en 2003. Son acte de naissance étant lié à des affaires de censure qui datent de 2002, pour certaines même d'avant, et surtout par la publication d'un manifeste qu'ils appellent le manifeste de l'Observatoire de la Liberté de Création, qui a été on a mis grosso modo un an à écrire une page pour se mettre vraiment d'accord sur les enjeux. Ça n'a pas bougé fondamentalement depuis ça. Il a été publié début 2003 dans Libé et je ne sais plus quels autres journaux. La particularité de l'Observatoire, c'est que il est hébergé par la Ligue des droits de l'homme. C'est au départ un groupe de travail de la Ligue des droits de l'homme, mais avec une spécificité, ce qui n'est pas du tout le cas des autres groupes de travail de la Ligue des droits de l'homme, c'est d'associer un certain nombre d'organisations, dont vous. Il y en a une quinzaine, 15 précisément, donc 3 syndicats, mais il y a par exemple la Ligue de l'enseignement, il y a plusieurs organisations de cinéma comme la Société française des réalisateurs, la SFR, il y a l'Association internationale des critiques d'art, il y avait, en ce moment ils sont en rupture, la Société des gens de lettres, mais dans le monde de l'écriture. Donc, ça couvre l'ensemble des domaines de la création artistique, quelle que soit la discipline, avec, et ça c'est un des points fondamentaux, des points de repère dès le départ, c'est l'idée de solidarité entre les arts, c'est-à-dire des plasticiens peuvent très bien prendre position, discuter sur un problème de censure ou d'entrave à la liberté de création en musique et réciproquement. Et ce qui est malheureusement souvent pas le cas, où les choses sont très tranchées d'une discipline à l'autre. Dernier point sur la fondation de l'Observatoire. À l'époque, il y a 20 ans, l'idée de liberté de création artistique n'existait pas, ni juridiquement, ni même dans le débat. Et d'ailleurs, le nom initial de l'Observatoire, c'était « Observatoire de la liberté d'expression en matière de création artistique ». Un peu longué, mais ce qui dit bien que, et ça reste vrai, qu'on s'inscrit dans la liberté de création, de la liberté d'expression, mais, et c'est le point d'ancrage, le point de départ de l'Observatoire, qui a une spécificité de la création artistique. Non pas que les artistes et les créateurs soient dispensés d'une responsabilité politique, mais vous le savez, la liberté d'expression est encadrée en France. Il y a des choses qui sont interdites, en particulier l'antisémitisme ou en particulier l'antisémitisme, et que la question qui se pose pour la création est que se passe-t-il, et ça c'était dès le début, que se passe-t-il si un auteur, par exemple en littérature, met en scène un personnage qui est nazi ou pro-nazi, et qu'on est dans la fiction, et y compris avec un regard qui peut être un regard absolument critique, et qu'on ne peut pas de simplement dire c'est pas la même chose que d'écrire un article pro-nazi. Sinon, on peut interdire la totalité des romans policiers, parce que de toute façon, ils mettent en scène et ils font la promotion de la violence, et on peut interdire à peu près toute création sur le thème qu'elle met en partage des idées qui sont pas forcément celles de l'auteur. Ça, c'est le point de départ sur notre analyse de la liberté de création. À partir de là, on est obligé d'avoir un certain nombre de principes. Alors, premier principe, c'est quand on est face à une affaire de censure, moi j'aime bien dire d'entrave à la liberté de création, parce que c'est pas toujours au sens de la censure au sens strict du terme, on est obligé de regarder au cas par cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas à l'Observatoire une position qui est de dire toute censure est interdite ou toute interdiction est à bannir. Il y a des cas particuliers, il y a des cas où il est très difficile de choisir et de se dire est-ce que la création, sous prétexte de création, on n'est pas en train de faire de la propagande, je sais pas quoi, antisémite, anti-homophobe, etc., anti-féministe. Donc ça, c'est un premier critère qui nous semble absolument fondamental. L'examen au cas par cas. La deuxième chose qui nous semble fondamentale, c'est de ne prendre position que quand on connaît et qu'on a vu l'œuvre. L'analyse qu'on fait de tous les cas, et quel que soit le domaine artistique qui ont eu lieu et sur lesquels on est intervenu depuis 20 ans, c'est que la plupart du temps, les polémiques, voire les censures, voire les interdictions, se font sur du oui-dire ou sur un titre, parce qu'il choque, et pas du tout sur l'œuvre vue. J'ai cité un exemple en 2010 à peu près, 2010-2011. Romeo Castellucci joue au théâtre de la Ville une pièce qui s'appelle « Sous le regard du Fils de Dieu » en français. Et les catholiques intégristes empêchent cette représentation au titre du fait qu'il serait blasphématoire. Alors, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France, donc c'est pas une bonne raison. La deuxième chose, c'est que la plupart des manifestants qui crient au scandale anti-chrétien, ils appellent ça la christianophobie à l'époque, n'ont absolument pas vu la pièce et ne savent pas de quoi elle parle. Ils ont simplement pris le titre et pris une des images, qui était une image d'Antonio da Messina, si mes souvenirs sont justes, du Christ, et en font des commentaires. Et moi, personnellement, pour avoir vu la pièce, je trouve que si on peut faire un reproche à Castellucci, c'est d'être abominablement chrétien. ou génialement chrétien. Dernière chose, fondamentale, c'est que, à partir du moment où il s'agit d'une œuvre artistique, il y a polysémie de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire qu'une œuvre, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, est lu, entendu, vu par un spectateur, et que c'est une interaction entre les deux, et que nous tous, on voit pas la même chose quand on regarde la même œuvre ou quand on entend la même œuvre. Et donc, le fait qu'un certain nombre de gens disent « moi, ça me choque », on peut le respecter, mais c'est pas parce que ça te choque toi que ça me choque moi. Et ça, défendre la polysémie, et ça c'est très différent d'un article polémique dans la presse par exemple, ou d'une volonté, voire dans certains cas sur les questions de caricature, où on est dans un discours politique où il est clairement dit que j'essaye de faire passer une idée. L'artiste, il essaye de faire passer une idée, mais il l'a fait de façon complexe, et en laissant une liberté au spectateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Observatoire ? On fait en gros, une première chose, c'est de regarder quels sont les textes réglementaires. Il n'y a pas de censure préalable en France, sauf pour le cinéma, où il y en a une. Il y a quand même des textes qui, sous couvert, c'est les articles 227-24 et 227-23, si je ne me trompe pas, du Code pénal, qui, sous couvert de protection de l'enfance, permettent de censurer un certain nombre d'œuvres. C'est beaucoup utilisé par les associations d'extrême droite quand elles veulent faire interdire une œuvre, voir par exemple l'histoire du CAPC de Bordeaux il y a 20 ans, exposition qui a défrayé la chronique pendant assez longtemps. Donc première chose, on analyse le système juridique. Et deuxième chose, on essaye d'influencer, de moderniser ou de limiter les textes réglementaires. En particulier, on est beaucoup monté au créneau en 2016 pour le vote de la loi dite liberté de création, loi de juillet 2016, où on est intervenu pour que la liberté de création artistique soit reconnue dans la loi, étant donné que l'article premier de la loi dit « la création est libre », et surtout, on était intervenu dans un débat compliqué avec le gouvernement de l'époque, pour que la diffusion des œuvres soit reconnue et qu'il soit aussi dit, non seulement la liberté, on a la liberté de créer, mais si personne ne voit, ça ne sert pas à grand-chose, mais on a la liberté de diffuser les œuvres. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, c'est le volet législatif. Le deuxième volet, c'est d'intervenir quand on est au courant d'une affaire pour essayer de faire que l'œuvre, soit quelle qu'elle soit, soit visible, entendue, et qu'il n'y ait pas de censure préalable, c'est-à-dire d'interdiction au public de la voir. C'est pas forcément de dire qu'on défend l'œuvre, mais c'est de privilégier le débat, et de dire, il faut à tout prix que on puisse voir une exposition, on puisse voir et non pas dire on interdit. Après, à chacun d'organiser les débats, l'Observatoire l'a fait dans un certain nombre de cas. Que dire d'autre ? C'est déjà, ça occupe déjà bien. Et comme l'a dit Guillaume, il y a évidemment un gros travail théorique de fait derrière, parce que ces idées sont pas simples. Et je dirais que sur 20 ans, ça n'a jamais été simple. Mais en plus, les choses se sont complexifiées. Et se sont complexifiées parce que il y a 20 ans, grosso modo, nos ennemis, avec des guillemets, c'était l'extrême droite et les intégralistes catholiques. C'est beaucoup ce qui nous gênait. Ça commence à basculer vers 2010-2011, notamment avec quelque chose qui avait pas mal défrayé la chronique, indépendamment de Castellucci, c'était l'exposition ou la manifestation qui s'appelait Exhibit B, au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, Exhibit B étant une exposition faite par Brett Bailey, qui est un blanc d'Afrique du Sud, contre l'apartheid, évidemment, et contre les zoos humains. Si ce n'est que les mouvements de défense des Noirs, notamment un truc qui s'appelait la brigade anti-négrophobie, se sont saisis de cette exposition pour dire, pour la voir autrement et la voir comme un éloge des zoos humains, et donc dire il n'est pas question qu'on laisse cette manifestation avoir lieu. Et là, c'est un premier virage pour nous, parce que on se retrouve en désaccord fondamental avec des gens sur lesquels, avec lesquels on est d'accord sur leurs revendications. Leurs revendications d'être anti-négrophobie, on ne peut être que d'accord, comme pour les organisations de l'Observatoire. Mais simplement, c'est la lecture de l'œuvre qui n'est pas la même. Moi, j'ai trouvé que c'était parfaitement antiraciste, mais d'autres, et je citerai Liliane Thuram, le footballeur qui est militant antiraciste, qui dit « bah ouais, mais c'est compliqué parce que quand on est noir, on ne ressent pas les mêmes choses de la même façon que vous ». Je ne cite qu'un exemple, je ne rentre pas dans le débat. Et puis, depuis, autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui est compliqué, c'est le rapport qu'on a avec les militantes et les militants féministes. À juste titre, un certain nombre de gens posent des questions, voire l'affaire Polanski, par exemple. Bon, je dirais un exemple. Moi, je suis absolument pas, je donne un point de vue personnel, je ne suis absolument pas choqué par le fait qu'on appelle à boycotter Polanski. Je suis absolument contre le fait qu'on interdise de projeter ces films. C'est pas la même chose de dire je veux qu'il y ait un débat et je trouve que Monsieur Polanski, je veux pas aller voir ces films et je ne veux pas qu'on les voit, et de dire je ne veux pas que qui que ce soit, je me mets à la place des autres et nous ce qu'on prône c'est le débat. C'est évidemment des questions compliquées. Il y a aussi des fois, et je vais en terminer par là, où l'Observatoire ne prend pas position parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça, on y tient beaucoup. C'est de laisser le débat ouvert. Je citerai, parce que vous êtes tous plasticiens et que vous avez dû suivre ça, l'affaire Lévesque. Claude Lévesque, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il était juste ou est-ce qu'il n'était pas juste d'éteindre les œuvres de Claude Lévesque à Montrouge ou à Montreuil parce qu'il est accusé de pédophilie, accusé vraisemblablement tout à fait à raison d'être pédophile. Je laisse la question en interrogation. Dernier peut-être point pour savoir de quoi vous pouvez débattre vous aussi, la place des œuvres dans l'espace public. C'est pas la même chose de mettre une œuvre qui peut être choquante, dont on dit nous l'œuvre d'art par définition et doit faire bouger le regard, donc elle peut être choquante, la faire dans une exposition où le spectateur est libre de venir voir de la voir, de pas y aller, ou dans un spectacle vivant, il est libre de choisir d'aller au spectacle ou de ne pas y aller, et de l'œuvre dans l'espace public, choisie par une municipalité, choisie par X ou Y, et qui est imposée au regard, comment on traite ces affaires-là. Voilà, quelques éléments. Juste pour terminer, dire qu'il y a une espèce de Bible de l'Observatoire, hein, avec une très belle image de Peace Christ, qui est une œuvre de Serrano, qui a été vandalisée par l'extrême droite à Avignon il y a une quinzaine d'années. Ce bouquin, qui s'appelle « L'œuvre face à ses censeurs », analyse une quinzaine de faits de censure dans tous les arts, et il est épais parce qu'il y a aussi tous les attendus, jugements, prises de position qui permettent de comprendre les débats qui ont été en jeu. Il est à acheter, à vendre pour moi. Et Denis rappelait que la Fédération des... Je ne sais jamais comment tu t'appelles, Fédération CGT, en disposer d'un certain nombre d'exemplaires que vous pouvez acheter.
Merci Daniel. On a peut-être quelques minutes si vous souhaitez intervenir par rapport à cette présentation avant de passer à la table ronde. Voilà, si des personnes veulent poser des questions ou des remarques à partager sur ce sujet.
Alors Denis Gravouille, moi je suis secrétaire général donc de la CGT Spectacle. Le nom complet c'est Fédération du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT. Donc c'est mieux de dire CGT Spectacle, c'est plus court. Mais donc je vais juste rebondir sur le dernier point qu'a abordé Daniel. Donc on est membre plus récemment que le SNAP en tant que fédération de l'Observatoire. Effectivement on est arrivé au moment où certains débats étaient compliqués. Et je crois qu'il faut vraiment les avoir, que ce soit avec des mouvements féministes qui sont pas tous d'accord entre eux non plus, que ce soit avec des mouvements antiracistes, ils sont pas tous d'accord non plus entre eux, hein, on le sait, mais il faut que la question de la liberté de création et d'expression dans le respect de la loi, et évidemment on a bien mis l'antiracisme, l'antisémitisme et le racisme, ce sont des délits, là c'est plus une histoire de liberté d'expression, mais là il y a des débats particulièrement intéressant parce qu'ils sont compliqués, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement quand c'est l'extrême droite qui veut interdire une œuvre, c'est compliqué, mais c'est simple. C'est voilà, il y a des fachos qui veulent empêcher, qui ont mis le feu au cinéma Saint-Michel pour empêcher un film de Martin Scorsese, d'ailleurs, c'était Martin Scorsese, d'avoir lieu. On voit dans quel camp ça se passe. Quand c'est un spectacle dans le cadre d'une université qui reprend des masques d'Eschyle antique qui sont accusés d'être de blackface, à tort en l'occurrence, ça, on comprend que ce soit sensible parce que le blackface c'est une réalité et qu'il faut en avoir conscience. Donc ça fait des débats plus compliqués. Pareil avec sur les mouvements féministes, c'est sûr que la Cinémathèque qui programme la même année que des hommes, Polanski, Brissot condamné pour viol et agression sexuelle, ça fait des débats et on a le droit on a le droit, et nous-mêmes en tant que fédération, nous sommes particulièrement impliqués dans cette lutte-là contre les violences sexistes et sexuelles, et donc on a manifesté au César contre l'heure de gloire qui était donnée à Polanski au César. Pour autant, ne donnons pas les armes à nos adversaires, nos ennemis, hein, l'extrême droite à haute, de leur donner les moyens de dire, bah voyez, vous-même, vous avez réclamé la censure d'une œuvre avec laquelle vous n'étiez pas d'accord. Il faut qu'on ait le débat. Et c'est cette question-là que porte l'Observatoire. C'est très intéressant qu'on l'ait, y compris que ce soit des débats juridiques, des débats politiques. C'est toutes ces questions-là qu'il faut pouvoir aborder parce qu'il faut faire attention à pas se servir pour de bonnes intentions d'armes utilisées par l'extrême droite qui, elle, ne le fera sans nuance. Voilà.
Merci.
C'était le 9e épisode des tables rondes du SNAP CGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisi. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.